Alors, bon, vous vous rappelez que l'année dernière, c'était au début, on avait pensé que c'était plus logique de commencer par Freud. J'ai pensé la même chose. Bon, le hasard a fait que je vais parler aujourd'hui, après d'autres interventions qui, je pense, ont été aussi sur Lacan, enfin bon, etc. Alors, l'année dernière, j'avais donné donc cette petite conférence sur l'angoisse chez Freud, dans l'œuvre de Freud, qui était élaborée à partir de textes que je connaissais, donc qui sont bien connus. Et je me suis rendu compte, pendant les vacances, que j'en avais oublié un qui est très important, auquel je ne pense jamais, qui s'appelle les nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse, qui sont une espèce de suite à l'introduction à la psychanalyse, qui est un texte apparemment de vulgarisation, qui est relativement clair, mais qui est fait pour des non-spécialistes, mais qui en fait contient, comme toujours chez Freud, des choses extrêmement intéressantes. Donc ces conférences sont de 1933, sont assez tardives, et en fait elles n'ont jamais été prononcées. Parce qu'à ce moment-là, Freud était il avait un cancer, hein, de la gorge. Il ne pouvait plus parler pendant toute la fin de sa vie. Il a eu plus de 10 opérations. Bon, à la fin, c'est sa fille qui parlait pour lui, mais enfin, il a toute sa tête encore. Et donc, ces conférences sont des fausses conférences, elles sont écrites simplement. Et elles constituent en fait un complément aux premières, parce qu'il avait remanié ses théories, et tiennent compte de l'état des recherches de Freud à ce moment-là. Donc elles étaient destinées à un public qui n'était pas spécialisé, un public mécultivé, et se caractérise, comme tout ce genre d'écrit chez Freud, par une apparente grande clarté. On a vu avec Geneviève Morel, cette grande clarté, parfois plus complexe que ça n'en a l'air. Bon. Et également par un souci remarquable de synthèse qui porte sur des points extrêmement complexes. Alors, quand j'ai préparé la conférence d'aujourd'hui, j'étais très étonné de voir qu'il y a une conférence qui s'appelle Sur la féminité en français, Das Weibliche, le féminin en allemand, et qui est assez connue, mais pas tant que ça. Et elle fait suite, il s'agit de la 33e conférence, qui fait suite à une conférence justement sur l'angoisse et la vie pulsionnelle. Alors, comme je n'avais pas lu avant, je me dis, tiens, c'est un hasard heureux que mon intervention fait suite exactement, donc c'est qu'il y a un lien. Sinon, il n'y aurait pas eu deux conférences à la suite. Donc, c'est le problème de l'angoisse, c'est quand même lié au problème de la féminité, du féminin, et moi, je l'ai relié également au problème du masochisme. Je ne voulais pas je voulais introduire directement le problème du féminin, comme ça, mais par un biais, qui est le biais du masochisme, que j'ai appelé dit féminin. Bon, on va voir pourquoi. Alors, c'est évident que dans ce domaine, on ne parvient jamais à un résultat satisfaisant, comme vous allez le voir. Alors, prenons comme point de départ, en rappelant très rapidement cette 32e conférence, bon, ce sont des numéros très élevés parce qu'elles font suite à l'introduction à la psychanalyse, hein, et sur l'angoisse et la vie pulsionnelle. Alors, comme on avait vu l'année dernière, Freud y rappelle ses conceptions initiales sur l'angoisse et leur nouvelle élaboration. Vous rappelez qu'il y avait j'espère, vous rappelez évidemment, qu'il y avait deux conceptions de l'angoisse qui ont été l'une à la suite, qui se sont succédées historiquement. Alors, l'angoisse fait, dans sa première conception, suite au refoulement, en particulier dans les cas d'hystérie. La représentant dans toute névrose, et en particulier dans l'hystérie, il y a une représentation interdite qui est refoulée. Et à ce moment-là, lié à cette représentation, bon, je n'entre pas dans le détail, ça c'est compliqué, mais ce qui est refoulé, c'est uniquement tout ce qui est de l'ordre du visuel, de l'image, et pas de l'ordre du mot, hein. Le mot n'est pas, tout ce qui est de l'ordre du verbal n'est pas refoulé parce que ce n'est pas dans l'inconscient. Ce qui est dans l'inconscient, c'est la représentation de choses et non pas la représentation de mots chez Freud. C'est très important parce que dans l'inconscient, même si les structures sont comme un langage, il n'y a pas de mots, hein. Ça, c'est structuré comme un langage, dit Lacan, qui est très proche de Freud à cet égard-là. On le voit quand on lit correctement. Et donc, mais il y a aussi, il y a l'image, il y a le mot, et il y a également des affects qui sont divers, qui peuvent être la peur, la crainte, enfin, le rire, enfin, d'être amusé, le dégoût, enfin, toute une série d'affects, mais qui ne sont pas refoulés. L'affect n'est jamais refoulé dans les théories psychanalytiques des Freud. Et cet affect, alors que la représentation, elle, de choses, est refoulée. Alors, l'affect, il faut qu'il devienne quelque chose, hein. Il n'est pas refoulé, donc il reste comme ça, il ne reste pas en l'air. Et en général, bon, c'est complexe, mais je résume, en général, il se transforme en angoisse, quel que soit l'affect. c'est l'espèce de dénominateur commun de cette transformation des affects, se transforme en angoisse qui suit sa nature, dit Freud, sur le modèle d'une angoisse originelle qui serait, évidemment en pure hypothèse, en rapport avec le traumatisme de la naissance, qui serait la première expérience angoissante pour l'être humain, et ensuite des situations de dépendance par rapport à la mère, en particulier au moment où les angoisses dites de perte d'objet, quand la mère abandonne, enfin, quand l'enfant croit que la mère l'abandonne à chaque fois qu'elle s'éclipse, qu'elle disparaît, etc. Et, c'est-à-dire, angoisse de la perte d'objet, d'amour de la personne qui est dispensatrice des soins. Alors, l'angoisse ici est au service de l'autoconservation, et elle est dans cette première théorie un signal d'un nouveau danger, et elle proviendrait d'une libido qui est devenue inutilisable, qui ne trouve pas de satisfaction. Donc, on s'en va voir, c'était l'idée que les hystériques, comme elles étaient frustrées, elles avaient des angoisses, et puis c'est tout. Hein. C'était ça, en fait. Ce qui était bien connu avant Freud aussi, puisque Charcot, enfin tous les médecins de l'époque, du 19e siècle, pensaient que la frustration engendrait l'angoisse. Et alors, ils ne le disaient pas dans les livres, mais ils se le disaient dans les couloirs. Et c'était occasion de blagues, etc. En latin, évidemment, genre, des bonnes doses de pénis répétées empêcheraient la frustration, donc l'angoisse, et les femmes seraient beaucoup moins hystériques. C'est complètement faux, puisque comme chacun sait, ça n'empêche absolument rien. Alors, avec les théories, c'est vraiment une conception machiste, si vous voulez, parce qu'on a beaucoup accusé Freud d'avoir des conceptions machistes, mais ça, c'est une conception vraiment machiste, et qui suppose que l'angoisse des hystériques ne se trouve que chez les femmes. Alors Freud, quand même, en Autriche, le premier à avoir montré un cas d'hystérie masculine, ce qui lui a valu d'être éjecté, d'ailleurs, du laboratoire où il était, où on trouvait que c'était un vrai scandale de dire une chose aussi absurde. Bon, alors, avec les théories postérieures, vous savez, il y a deux grands moment dans les théories freudiennes, c'est la première série de théories à partir de l'élaboration des théories, de tout ce qu'il a écrit sur l'hystérie, les névroses, etc., et puis l'espèce de thèse gigantesque hein, sur les rêves, et tout ce qui a été jusqu'à la Première Guerre mondiale. Alors on a une première topique qui distingue conscient, inconscient, préconscient, non c'est plutôt inconscient, préconscient, conscient, et puis, je n'entends pas dans les détails, et puis de l'autre côté une deuxième topique où il y a le surmoi, le moi et le ça. Alors, après 1920, dans cette deuxième topique, qui fait suite aux observations des névroses traumatiques de guerre, Freud modifie complètement ses conceptions à la suite de ce qui a été observé pendant la guerre. Le sujet est obligé, dans sa deuxième théorie de l'angoisse, le sujet est là obligé de refouler des représentations sous l'effet de l'angoisse qui résulte du développement du complexe d'Œdipe. C'est complètement différent. L'angoisse de castration est donc à l'origine du refoulement, parce que dans le complexe d'Œdipe, il y a une angoisse de castration, qu'il appelle comme ça aussi, il appelle l'Œdipe, on va le voir aussi bien pour l'homme que pour la femme, il veut que ce soit le même mot, c'est exprès, et l'angoisse de castration qui est à l'origine du refoulement. Et ce n'est donc pas le refoulement qui crée l'angoisse, c'est inversé si vous voulez. Mais malgré tout, ça reste vrai dans les cas de frustration sexuelle, et il y aurait des névroses dites d'angoisse, qui serait uniquement dû à une libido non satisfaite qui se transforme en angoisse. Alors, dans un cas, si vous voulez, il y a une libido non satisfaite, le fait que c'est la première théorie, mais qui n'est pas complètement abandonnée, comme c'est toujours le cas chez Freud, hein. Ça reste vrai dans un certain type de cas qui sont les névroses d'angoisse, où le grand symptôme est simplement une angoisse affreuse, sans élaboration, sans symptômes compliqués, comme chez les hystériques, les obsessionnels, simplement le symptôme majeur, central, c'est l'angoisse. Les gens sont angoissés, c'est tout, c'est vraiment la chose assez brute. Et dans ces cas-là, ça pourrait être, d'après lui à ce moment-là, l'origine pourrait être une frustration sexuelle. Mais dans l'autre cas, ça n'est pas. Il a abandonné cette idée. Alors, en pensant que c'est le refoulement qui est dû au complexe d'Œdipe qui va provoquer ensuite l'angoisse. Alors, dans les deux cas, cette théorisation de l'angoisse renvoie à la théorie des pulsions. Dans un cas, donc, la pulsion n'est pas satisfaite, cas de sexualité non épanouie, disons, ce qui entraîne l'angoisse, et dans l'autre, c'est l'angoisse de castration qui renvoie à une angoisse dite réelle, car elle est d'origine extérieure, c'est pour ça qu'il l'appelle réelle, qui empêche la satisfaction en provoquant le refoulement, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, maintenant, au niveau collectif, à cause de ce qui s'est passé pendant la guerre, de ce qu'il a observé, il développe une série de réflexions qui conduit au regroupement des pulsions en deux grandes catégories fondamentales, qui sont la pulsion de vie, Eros, d'un côté, ça, tout le monde le connaît, et de l'autre côté, la pulsion de mort, Thanatos. Voilà, Eros, Thanatos, bon, ça, c'est très connu. Et, bon, évidemment, cette dernière pulsion, Thanatos, la pulsion de mort, n'avait pas été reconnue comme telle, et parce que, dans ses premières théories, il y avait d'un côté une pulsion qu'il appelait d'autoconservation narcissique, l'individu voulant avant tout se sauver lui-même, quoi, en tirer à sa peau, quoi. C'est l'autoconservation narcissique, et de l'autre côté, une pulsion érotique, qui peut aller à l'encontre, dans la mesure où la reproduction peut entraîner la destruction. Hein, c'est évident, hein, c'est par rapport au règne animal, etc., quand les animaux se reproduisent, souvent, ils meurent après chez les insectes, etc., etc. Donc, parce que c'est l'espèce qui l'emporte sur l'individu. Donc c'est pour ça qu'il opposait les deux de cette façon-là. Mais il a complètement changé après la guerre, et il opposera simplement la pulsion de mort à la pulsion de vie. Et donc la pulsion de vie va être reliée à la pulsion d'autoconservation, ça va être aller dans le même sac, dans la même catégorie. Alors, cette pulsion de mort est très difficile à admettre, en fait. Hein. Et elle correspond à une pure spéculation, Freud le dit lui-même, c'est une pure spéculation. Il suppose qu'elle existe, mais il la répute absolument indispensable à tout son édifice théorique. Et dans toute la dernière partie de sa vie, et jusqu'à sa mort, il pensera que cette pulsion existe. Cette pulsion de mort est très souvent discutée, non seulement hors la psychanalyse, mais dans la psychanalyse même. Beaucoup de psychanalystes ne reconnaissent absolument pas que cette pulsion existe. Alors, quels sont les faits? Là, on va en arriver au masochisme, ne vous inquiétez pas, est féminin. Alors, les faits qui ont conduit à son élaboration sont principalement les suivants. Alors, premièrement, les cauchemars répétitifs. Quand il y a un traumatisme, en particulier pendant la guerre, il y a eu énormément de traumatismes dus aux bombardements, aux gens qui étaient soumis à des pilonnages, des obus, etc., etc. D'ailleurs, on voit des films qu'on ne sort que maintenant, qui étaient restés complètement inconnus. J'ai vu à la télévision, un 1er novembre, parce qu'il y a au moins 3 ans ou 4 ans, des thèses qui sont faites maintenant, mais tout ça était en archive, on ne pouvait pas le consulter. Parce que, évidemment, c'était extrêmement traumatisant, rien que de voir ça. C'est-à-dire que les gens qui avaient dû se pencher, par exemple, pour échapper aux obus, marchaient toute leur vie courbée, par exemple, et tournaient en rond dans une cour d'hôpital. J'ai vu ce truc, c'était vraiment atroce. Vous voyez, les gens qui tournaient en rond, complètement bousillés, et penchés comme ça, comme un thé, voilà, comme quand on a un lumbago, et ils étaient penchés comme ça, ils tournaient en rond, et ils étaient tout le temps comme ça. Et tellement ils avaient été traumatisés, le choc avait été tellement puissant qu'ils étaient restés vivants, mais psychiquement, c'est pratiquement comme s'ils étaient morts. Et alors évidemment, ce genre d'expérience, alors s'ils ne sont pas dans un état destruction psychique tel, il y a, comme on l'a vu après avec les camps de concentration, etc., dans tous les grands traumatismes, il y a des cauchemars répétitifs. Ces cauchemars répétitifs consistent, on l'appelle comme ça, parce que la personne répète inlassablement la situation dans laquelle elle s'est trouvée au moment de l'accident. Et elle serait, paraît-il, à l'identique. C'est exactement le même cauchemar. Alors déjà, c'est très étrange que le cauchemar soit toujours identique, parce que quand on rêve, il y a toujours des petites variations, même si la structure est la même, c'est toujours nouveau, toujours différent en général. Très rare que ce soit absolument identique. Là, ce sont des cauchemars, et en plus, si vous voulez, dans la théorie des rêves, toute la théorie des rêves était fondée sur le fait que le rêve était la satisfaction d'un désir non assouvi. Alors, pour les enfants, par exemple, petite fille qui a envie de manger des fraises, sa fille, je sais plus qui, Anna, c'est pas sa fille, c'est Anna, elle mange pas des fraises, et donc, dans le rêve, elle a toutes les fraises qu'elle veut, elle mange des fraises. Bon, donc ça, c'est le truc le plus simple, encore. Satisfaction du désir non assouvi, une espèce d'hallucination fantasmatique, quoi, dans le rêve. Et, comme le type qui a soif dans le désert, et qui rêve, qui boit. Et qu'il y a une hallucination, il voit un mirage, etc. Alors, ça, cette théorie se trouve mise se trouve questionnée par le fait qu'il y a des gens qui reproduisent des situations désagréables. Alors, il s'en était tiré au début, Freud, dans les cauchemars, en disant que, finalement, l'explication des cauchemars, parce qu'on a déjà s'était posé la question, et alors, et les cauchemars, c'est pas agréable, un cauchemar. Bah, que le cauchemar satisfaisait des désirs sadiques, enfin, non, masochistes, donc il y avait satisfaction de type masochiste. Bon, mais là, ça marche pas. Il ne voulait absolument pas. Donc, il a dû trouver autre chose. Et donc, c'est là qu'il a trouvé cette théorie de la pulsion de mort, etc., qui est liée à tout ça, où, si vous voulez, il y a une situation extrêmement déplaisante qui est reproduite et qui a mis, si vous voulez, il a remis en question toute son élaboration. Il a du tout recommencé, je raconte pas dans le détail, mais ça c'est le point vraiment essentiel qui fait qu'il a dû remettre en question sa théorie et trouver autre chose pour que ça fonctionne. Alors il a trouvé, c'est pas en rapport avec aujourd'hui, mais bon, la satisfaction qui est trouvée dans les cauchemars répétitifs pour Freud, c'est que l'individu reproduit toujours la même situation. Parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas la satisfaction d'un désir, mais c'est une satisfaction beaucoup plus primaire, en quelque sorte, qui est d'être resté entier, vivant, et de pouvoir, que le moi, finalement, n'a pas éclaté. Au moment de, comme dans le cas de ces gens-là qui tournaient dans les hôpitaux, qui ont eu un moi, qui ont explosé, en quelque sorte, qui ont perdu la tête complètement. Là, le moi est resté entier, si vous voulez, l'individu n'est pas éclaté en mille morceaux, en quelque sorte, le moi n'a pas éclaté. Il est resté intact, mais il reproduit cette situation qui lui procure au moins cette satisfaction. Sa personne existe toujours sur le plan psychique. Il y a toujours une unité, en quelque sorte, psychique qui a été préservée. Bon. Alors, et la deuxième source de la remise en question de toutes ces théories à la suite de la guerre, c'est justement le masochisme, où l'individu tire son plaisir de la douleur, qui est quand même, a priori, complètement... Tout le monde est habitué aujourd'hui à tout ça. On entend beaucoup parler, je ne veux pas dire qu'on comprend. Mais c'est vrai que c'est quand même assez bizarre de penser qu'on tire son plaisir de la douleur. Pas évident, c'est pas un premier abord, on se dit c'est idiot. De même que dans les rêves, c'est quand même bizarre. Le rêve qui est source de plaisir, un rêve déplaisant, soit quand même, soi-disant, source de plaisir. Alors, soit la théorie est complètement fausse, soit il faut trouver une solution. Alors, parce que c'est quand même assez surprenant. Alors, au niveau collectif, il y a le niveau collectif et le niveau individuel toujours. Hein. Alors, au niveau collectif, on repère très facilement une pulsion de destruction. Toutes les guerres, etc., qui relève de la pulsion de mort, bien sûr, et ressort du sadisme lié à son contraire, le masochisme, ça forme un couple, bien évidemment. Alors, c'est de l'étude des perversions au niveau individuel que Freud, parce que bon, le fait que les gens satisfont leur sadisme dans les guerres, c'est vraiment évident, hein, même si c'est vraiment évident. J'ai ma cousine qui revient d'Algérie, justement, elle a fait des reportages de journalistes, en jean et sans chador, sans voile, et refusée, se pas fait assassiner quand même, et bon, enfin, elle est culottée quand même, c'est le cas de le dire, et si vous voulez, elle était une fois 5 jours dans les maquis, et a discuté avec les types qui égorgeaient, etc., et bon, ça c'est quelque chose qu'on sait très bien, bon, elle entendait les gens qui mouraient la nuit, enfin, absolument horrible, et ils ont des couteaux rouillés qui coupent pas bien, alors ça met très longtemps, enfin, c'est vraiment... et les hurlements des gens qui sont égorgés, enfin, des choses absolument effroyables, et alors elle a parlé avec des gens comme ça, où elle avait un garde du corps qui avait été dans les brigades antiterroristes, et ils ont tous dit, la première fois c'est difficile de tuer quelqu'un, mais à partir de la deuxième fois, c'est plutôt jouissif. Et ça, alors là, je l'ai retrouvé dans d'autres textes, tout un tas de... moi qui explique en détail qu'il y a une véritable jouissance sadique, que ça existe. Hein. La jouissance sadique, elle existe, on ne peut pas la nier, sinon il n'y aura pas tellement de gens qui commettent des actes sadiques. Hein. Alors, évidemment, la barrière, l'interdit est très forte au départ. Quelqu'un qui n'a jamais assassiné personne ou tué personne, il va avoir du mal à franchir le pas, ça c'est sûr. Je sais que dans les guerres, par exemple, les marines, enfin les Américains pendant la guerre de 14, la plupart ne tiraient pas sur l'ennemi. C'est pas très efficace. Donc c'est pour ça qu'il y a des tas d'entraînements pour les marines, etc., pour leur apprendre à vraiment tuer. Parce que les types étaient bien élevés et tout, ils avaient quand même du mal à tirer vraiment. Et c'est tout un entraînement. Et si vous voulez, là c'est sûr qu'il y a une très forte jouissance de toute puissance. Bien évidemment, vous donnez la mort, vous êtes à la place de Dieu, hein, bien évidemment. Et puis il y a autre chose, hein, c'est beaucoup plus compliqué. Et en même temps, il y a un très fort sentiment de culpabilité qui fait que c'est comme une drogue au bout d'un moment, paraît-il, et ça ne peut s'assouvir qu'en tuant encore quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Et c'est un cirque absolument infernal, mais le plaisir sadique, ça existe. Et en plus, il paraît que c'est chacun de nous. Bon. Alors, quand on suit une analyse assez longtemps, même si on a des interdits assez forts, on s'aperçoit que, bon, enfin bref, heureusement qu'on est bien élevé et qu'on a un surmoi quand même assez important, mais c'est vrai qu'on trouve des choses quand même un peu suspectes. Bon. Alors, donc il y aurait... Alors, pour Freud, évidemment, c'est l'évidence, hein, parce que quand on voit une guerre, c'est sûr qu'on voit tellement de choses épouvantables, on se dit c'est pas un hasard, c'est tellement de gens qui en arrivent à faire des choses qui sont vraiment innommables, que à partir du moment où il y a plus de gendarmes, tout est permis finalement dans certains cas, bon, évidemment, ils vont se permettre des choses qui ne se permettent pas d'habitude, et donc là, ils satisfont justement des plaisirs sadiques qui sont liés très souvent, au contraire, le masochisme, et même chez la même personne. Alors, au niveau personnel, l'étude des perversions lui permet d'étudier la notion de masochisme qui, pour lui, est la perversion la plus courante avec le sadisme. L'individu éprouve dans le masochisme du plaisir, bizarrement, à être maltraité, humilié, à souffrir, etc., etc., ce qui lui procure, paradoxalement, beaucoup de plaisir. Alors, quand le sadisme ou le masochisme remplace les buts sexuels dits normaux, parce que Freud dit toujours dit normaux, on a affaire à la perversion. Et Freud rajoute, il ne vous aura sans doute pas échappé non plus que le sadisme entretient une relation intime avec la masculinité, le masochisme avec la féminité. Comme s'il existait, comme s'il existait, vous avez vu avec Geneviève Moral, quand elle vous expliquait les cheminements de Freud, sont extrêmement compliqués. Ça a l'air très simple, c'est effroyablement compliqué. Comme s'il existait une relation secrète, bien que je doive vous dire tout de suite que nous ne sommes pas arrivés plus loin dans cette voie. Pour la théorie de la libido, sadisme et masochisme sont tous deux des phénomènes fort énigmatiques, tout particulièrement le masochisme, et il est dans l'ordre des choses que ce qui est constitué pour une théorie sa pierre d'achoppement doit fournir la pierre angulaire qui la remplace. Donc c'est quelque chose qui va faire progresser la théorie, c'est ça qu'il veut dire. Donc ça c'est en 33, nouvelle conférence sur la psychanalyse. Donc revenons au masochisme et à la première conception, un peu comme tout à l'heure, il y avait de premières conceptions, puis après toujours pareil, hein, les années 1900, 1905 jusqu'à 1920 grosso modo, et puis après un tournant après 1920. Alors dans les trois essais sur la sexualité, Freud, qui sont de 1905, mais qui ont des notes qu'il faut lire, écrites en tout petit, parce qu'elles datent de 1914, 1920, 1924, donc il n'annule pas ce qu'il a dit, mais il corrige, c'est tout le temps comme ça. Hein. Il garde le premier état, il ne fait jamais disparaître ce texte, il ne dit pas c'est annulé, ma théorie a complètement changé, non. Il garde en général presque tout ce qu'il a écrit dans un premier temps, mais il le modifie, il rajoute des notes, il complète, etc., etc. Alors, Freud explique dans trois essais sur la théorie de la sexualité que le désir de faire souffrir l'objet sexuel, ou sa tendance opposée négative, c'est-à-dire le masochisme, est la forme de perversion la plus fréquente et la plus importante de toutes, et elle a été nommée par Kraft et Bing, sadisme ou masochisme, suivant, selon qu'elle est active ou passive. Il s'agit de dominer l'objet sexuel en employant d'autres moyens que la séduction. Voilà, la séduction, voilà à quoi ça sert. Entre parenthèses, à dominer l'objet sexuel. Et la séduction est diabolique, comme vous savez. Hein. Ça vient du latin educere, qui veut dire faire sortir du droit chemin. Le chemin où vous êtes, vous... quelque chose de perverse dans la séduction, forcément. Alors, le sadisme n'est considéré comme perversion par Freud que dans des cas extrêmes, pathologiques. Sinon, il les considère comme une composante de la sexualité normale. Le masochisme est, dit-il, beaucoup plus énigmatique, car il procure donc un plaisir paradoxal et paraît plus éloigné de la vie sexuelle, je l'avais dit, dite normale que le sadisme. Et là, il se pose la question de savoir si le masochisme est toujours un phénomène primaire ou s'il résulte d'une transformation du sadisme à chaque fois. Alors c'est là qu'il y a tout un tas de phrases, de paragraphes assez embarrassés, évidemment c'est quelque chose d'assez compliqué, et qui sont suivis d'ajouts, de notes en 1915, 1924, etc., etc. Alors commence par dire que la place spéciale occupée par le sadisme ou le masochisme provient des caractères fondamentaux et opposés, activité et passivité, qui sont constitutifs de la vie sexuelle. En général, vous allez voir, ça se complique. Signe, alors il y a un signe de difficulté rencontré par Freud, il y a des ajouts, des notes sans arrêt. Sadisme et masochisme ne peuvent être expliqués par le seul élément d'agression, dit-il. Chez un individu, ils se trouvent en proportion variable et doivent être rapportés à la bisexualité, unissant les caractères masculins et féminins. Ça, c'est un rajout de 24. Donc, ça doit être rapporté à la bisexualité unissant les caractères masculins et féminins, chez tout individu, évidemment, que la psychanalyse remplace fréquemment par l'opposition actif-passif. Deuxième signe de difficulté rencontré par Freud, il ne détecte dans ses explications qui sont assez embarrassées, qui ont l'air au moins assez confuses, la disposition à la perversion est quelque chose, dit-il, de profond et de généralement humain. On la retrouve chez l'enfant, défini, comme vous le savez par Freud, comme un pervers polymorphe. Et, alors c'est ça qui fait hurler, vous accrochez là, je vous explique après, il faut que vous ne m'écharpiez pas. Alors là, ça fait hurler, mais les gens qui ne comprennent rien du tout, ils ne savent rien, ils ne savent pas lire, c'est tout. Hein. Et chez la moyenne des femmes, n'ayant pas subi l'influence de la civilisation et conservant ainsi une disposition perverse polymorphe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que les femmes, il y a deux façons de le lire. Évidemment, si vous lisez en pensant que toutes les femmes en général n'ont pas subi l'influence de la civilisation et sont des pervers polymorphes comme l'enfant, une façon de dire les choses. Alors, les féministes vont monter au créneau et vont hurler. Bon. Il faut quand même se replacer à l'époque. Hein. Les femmes, c'est vrai, elles ne sont pas toutes éduquées à cette époque-là. Elles n'ont pas accès à l'éducation, la plupart des femmes, comme les hommes à ce moment-là. C'est pas pareil. Évidemment, dans la bourgeoisie, les femmes sont éduquées. Il y a des grandes romancières anglaises, ça dépend des pays, etc. L'éducation n'est pas la même pour les hommes et pour les femmes, c'est absolument évident. Et c'est ça que Freud veut dire, en fait. C'est que dans les cas, il n'y a pas un accès égal à la culture et à l'éducation chez les hommes et les femmes à l'époque de son temps. C'est ça qu'il veut dire. Et que donc, à ce moment-là, pour lui, les interdits, alors c'est vrai, c'est faux, j'en sais rien, hein, mais les interdits culturels, tout ce qui est. Alors c'est pour ça qu'il dit que les femmes n'ont pas de surmoi à un moment, dans certains textes, alors ça se fait hurler aussi, évidemment. Ou que. Alors vous allez voir, parce qu'un peu plus loin, enfin plus tard, il va dire. Il explique qu'il y a plus d'inhibition sexuelle chez les filles, pudeur, dégoût, pitié, et que le penchant au refoulement paraît jouer un plus grand rôle. Lorsque les pulsions sexuelles se manifestent, elles prennent de préférence la forme passive. Donc c'est complètement contradictoire. En fait, ce n'est pas les mêmes femmes, c'est ça, c'est tout. Les femmes qui voient en analyse, évidemment, des hystériques, qui sont élevées dans la bourgeoisie, lui, il n'y a pas beaucoup de catholiques, mais en France, etc., dans des couvents, où évidemment, tout est basé sur la répression, la frustration, on ne se lave même pas, parce que se laver Alexandre Dumas, quand il allait visiter sa fille, il ressortait en se bouchant le nez, parce qu'il ne fallait pas qu'elle se lave, les filles de la bonne société, parce que c'était scandaleux de toucher son corps et de se complaire à se laver, c'est prostituée qui se lave, hein. Si vous voulez, l'odeur était insupportable dans les couvents des bonnes familles. C'est une petite bassine, et encore, et puis sous la chemise, elle se lavait, etc., etc. Donc, il faut voir toutes ces frustrations qui sont très très fortes et qui provoquent évidemment l'hystérie, bien évidemment. Puis de l'autre côté, si ça n'existe pas, des gens qui savent ni lire, ni écrire, pas des cultures orales, ça je ne le nie pas, mais il y a aussi des gens qui devaient être quand même assez frustrés, c'est pour le dire. Mais moi, quand j'étais petit, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Les choses ont quand même beaucoup évolué. Alors, parce que si on s'imagine que tout était comme aujourd'hui, on ne comprend absolument rien à ces textes. Hein. Il y a quand même une évolution de la société qui explique beaucoup de choses. Je vous lis quand même ça. Alors, l'idée, par exemple, que la moyenne des femmes n'ayant pas suivi l'influence de la civilisation et conservant ainsi une disposition perverse dans les morts, une explication. C'est un peu plus complexe et donc on peut voir là ce qu'il veut dire. Alors, il dit. Oui, voilà, c'est là. Il est intéressant de constater que l'enfant, par suite d'une séduction, peut devenir un pervers polymorphe et être amené, ça c'est au début, hein, il va changer un petit peu, vous avez le voyez, et être amené à toutes sortes de transgressions. C'est-à-dire, ce pervers polymorphe veut tout simplement dire qu'il éprouve du plaisir de toutes les façons possibles et imaginables, quand on te caresse, en voyant, tout ce qui sont des pulsions partielles, qui sont simplement, dans la sexualité dite normale, des préliminaires, etc. On aura toutes sortes de plaisirs qui sont non hiérarchisés, en quelque sorte, et tout simplement ça qu'il veut dire. Il va manger ses excréments, par exemple, une sorte de plaisir aussi. Chez certaines personnes, ça continue après. L'escatologie, bon, ça arrive, des choses de ce goût-là. Il a prouvé beaucoup de plaisir à battre ses petits camarades, etc. Voilà, des jeux sadiques, souvent vraiment. On ne peut pas dire qu'ils soient vraiment pervers. Bon, les enfants font tous des tas d'horreurs, vous le savez très bien. Bon. Alors, il y a même les plus charmants, mais c'est vrai, les enfants, c'est des monstres, en fait. Hein. Les charmants petits bambins, ils font des trucs absolument épouvantables. Hein. Je me rappelle, c'est une fille là, qui quand son petit frère est né, elle a pris un fer à repasser tout chaud, puis elle a décidé de brûler son frère pour s'en débarrasser, pour ça, tout à fait normal. Et on l'a arrêté à temps. Petite fille très bien élevée, très névrosée après d'ailleurs, parce qu'on les interdit, après elle les a bien intériorisées. Mais quand ils sont petits, bon, ils arrivent à faire des horreurs. Alors, l'enfant est donc prédisposé, les actes pervers rencontrent des résistances, les digues psychiques qui s'opposeront aux excès sexuels, pudeur, dégoût, morale, n'étant pas établies ou n'étant qu'en voie de formation. L'enfant, dans la circonstance, ne se comporte pas autrement que ne le ferait vis-à-vis du séducteur, la moyenne des femmes, évidemment ça fait hurler, n'ayant pas subi l'influence de la civilisation et conservant ainsi une disposition perverse polymorphe. Une femme ainsi disposée peut sans doute, dans les circonstances ordinaires de la vie, rester sexuellement normale. Là, c'est toujours entre guillemets chez Freud. Hein. Mais sous l'empire d'un séducteur averti, elle prendra goût à toutes les perversités et en fera désormais usage dans son activité sexuelle. La prostituée, évidemment, il y en avait énormément à l'époque, hein, la prostituée use de cette disposition polymorphe et par conséquent infantile dans l'intérêt de sa profession. Et si l'on considère le nombre immense de femmes prostituées et de celles auxquelles on ne saurait dénier les aptitudes à la prostitution, quoiqu'elle n'en ait jamais exercé le métier, on devra reconnaître que cette disposition à toutes les perversions est quelque chose de profond et de généralement humain. Voilà. Alors, c'est des femmes qui sont restées infantiles. Bon, je pense pas qu'il dira la même chose aujourd'hui, honnêtement. Alors, ça, évidemment, ça, c'est le genre de texte qui fait vraiment qui choque énormément aujourd'hui. Alors, moi, je pense que l'explication, fondamentalement, provient du fait de cette différence d'éducation. Il faut bien savoir qu'il faut bien se remettre dans la mentalité de l'époque. Hein. Si le droit de vote n'était pas donné aux femmes, vous le savez très bien, c'est pour ce genre de raison, en fait. C'est pour ces différences de culture. Le fait que les garçons... par exemple, c'est la gauche qui ne voulait pas que les femmes aient le droit de vote en France. Ce n'est pas la droite. Contrairement à ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. C'est les radicaux, et les radicaux socialistes, qui s'opposaient absolument formellement à ce que les femmes aient le droit de vote. Parce qu'ils pensaient qu'elles voteraient forcément à droite parce qu'elles étaient élevées par les curés. C'était ça, l'idée. Et parce qu'elles n'étaient pas assez éduquées, et donc pas assez libres, elles étaient sous l'emprise de l'Église, ou alors c'était des espèces, ou les prostituées, enfin, sous l'emprise de pulsions et tout, donc elles étaient inaptes à pouvoir voter. Ça, c'est des idées qui étaient très ancrées, même à gauche. Hein. Et donc, et Freud est plutôt à gauche, en fait, hein, de son époque. Il est grosso modo, on peut dire, quand on lit ses textes, il est proche, il est... du genre du côté radical. Aujourd'hui, on le mettrait du côté des radicaux-radicaux-socialistes. Enfin, non, de son temps, les proches des radicaux-radicaux-socialistes, quand même, c'est assez progressiste, et à certains moments, assez proche des socialistes, et même au début des communistes, à un moment, il y a eu le régime soviétique. Après, il a changé de ce qui s'est passé là. Il a tout de suite vu ce qui se passe là, contrairement à d'autres. Hein. Et il a compris très vite. Et donc, on peut pas le taxer non plus d'être quelqu'un vraiment complètement conservateur, comme on l'a beaucoup fait. Il faut se replacer dans l'époque, si vous voulez, pour avoir ce genre de jugement et avoir un jugement historique, parce que sinon, on dit beaucoup de bêtises, hein, honnêtement. Alors, donc, chez les filles, chez ce genre de filles qui ont des dispositions perverses polymorphes, parce qu'elles sont pas assez éduquées, lorsque les pulsions se manifestent, elles prennent de préférence la forme dite passive. Alors, comment envisager donc ce masochisme finin? Alors, vous n'êtes pas au bout de votre surprise. Hein. Qu'est-ce qu'il va dire après? Alors, il y a deux textes essentiels. C'est assez compliqué, hein, en fait, parce que c'est assez tordu, mais c'est un problème extrêmement compliqué. Deux textes essentiels. Le problème économique du masochisme qui date de 1924, donc de la deuxième partie de la théorisation freudienne. Et ce texte s'appelle « La féminité » dans les nouvelles conférences sur la psychanalyse de 1933. Qui donne un état presque définitif des réflexions de Freud à ce sujet. Dans le problème économique du masochisme, qui est donc cet article de 1924, Freud revoit ses conceptions antérieures dont je viens de vous parler sur la perversion, et surtout sur le sadisme et le masochisme, d'où le titre de l'article. Les nouvelles théories dont je vous ai parlé tout à l'heure, métapsychologiques, élaborées après la guerre, de la deuxième topique, avec le ça, le surmoi, etc., le ça, le moi et le surmoi, lui font revoir son opinion sur le masochisme qu'il appelle secondaire. Dans sa deuxième topique, je vous ai dit, il distingue donc le moi, le ça, le surmoi, qui se superposent, mais la première n'est pas annulée. Il ne dit pas que l'inconscient n'existe plus. Hein. Ça se superpose à la topique inconscient, préconscient, conscient. Freud élabore donc cette théorie de la pulsion de mort dont je vous ai parlé, qui l'oppose à la pulsion de vie, alors qu'avant, bon, je vous ai dit qu'il opposait les pulsions visant à l'autoconservation, les pulsions sexuelles dites libido. Alors là, pour tout ça, tout cet ensemble de théories, Freud s'inspire des biologistes. Parce que c'est un scientifique au départ, quand même un médecin d'abord, et il était dans des laboratoires de physiologie, de neurophysiologie, tous les laboratoires, c'était les laboratoires de pointe de l'époque à ce niveau-là. Tout le fonctionnement du cerveau, etc. Et là, bon, il étudiait il disséquait sans arrêt les anguilles, les choses dans ce milieu-là, quoi. Il étudiait la moelle épinière du pétromison, des trucs absolument, bon, qui sont un peu surprenants, mais c'est quand même un scientifique pur et dur, hein, au départ. Donc il est très influencé par la biologie, bien évidemment. Et comme il est progressiste, il est darwinien. C'est ça le truc aussi, hein. Et donc il fait des études sur l'évolution des espèces, etc. quand il est jeune. Il va à Trieste, il a une bourse, ils vont pêcher sans arrêt des anguilles, je vais le raconter, je crois, essaye de prouver que les testicules de l'anguille mâle, que personne n'avait trouvé jusqu'à présent, on se demandait comment ils faisaient pour se reproduire. Bon. Et donc il y a tout, et puis la moelle épinière du pétromison, etc. Donc il est dans des recherches complètement, il a abandonné, mais ça l'a quand même formé, et donc il est très influencé par les théories biologiques. Et il emprunte tout ceci à des théories biologiques, en fait, hein, de son époque, et il suppose, donc sur la base de ces théories, et il dit lui-même que c'est une pure spéculation, qu'il existe dans tout organisme vivant une force visant à sa destruction, pour retourner à un état antérieur qui est stable et inorganique, l'état minéral, si vous voulez. Et tout ceci est exposé dans un texte de 1920 qui s'appelle « Au-delà du principe de plaisir ». C'est le début de toute cette théorisation nouvelle. Et il emprunte à un savant aussi pur et dur, un Fechner, la tendance à la stabilité, qu'on appelait un principe d'homéostasie. Il y a une tendance dans, bon, non seulement dans tout phénomène physique, si vous voulez, mais qui a été utilisée en biologie aussi, une tendance à la stabilité en l'appliquant à l'appareil psychique. Alors cet appareil psychique tendrait à réduire toute excitation, parce que toute excitation est source de déplaisir. Et le plaisir serait une décharge de ce trop-plein. C'est facile à comprendre, avec la faim par exemple. Quand vous avez faim, on ne peut pas dire que la faim ça soit agréable quand elle est insupportable. Et il y a une tension qui est extrêmement forte, qui est due à la faim, ou la tension sur le besoin sexuel, la soif, enfin n'importe quoi, tous les besoins organiques, qui font qu'à un moment, on a besoin de les satisfaire, ou alors ça va mal, hein, évidemment. Et on se met à délirer, hein, on hallucine la satisfaction par les hallucinations, etc. Et une fois qu'on a satisfait le besoin, il y a une baisse de la tension, et c'est ça qui est agréable. Le plaisir provient de cette baisse de tension. C'est une vision vraiment très, très, très scientifique, fondée sur... Pardon ?
Très masculine.
Oui ?
Par rapport au plaisir...
Bah, la faim, les femmes l'éprouvent quand même aussi. Jusqu'à preuve du contraire. Je sais pas, non, mais ça peut se discuter, hein, voilà. C'est comme Freud, c'était pas une femme, donc il a du mal à voir ce qui se passe chez les femmes, hein, ça c'est vrai, hein. Oui, quand même évident, mais enfin, il a quand même des patientes femmes en majorité au départ, hein, donc peut-être des idées, vous supposez que... Ben oui, justement, c'est le problème du masochisme, on va y revenir. Alors, mais il y aurait dans tout appareil psychique une tendance à la stabilité. Bon, ça c'est une postulation qu'il fait sur le modèle des sciences dures, si vous voulez. Alors, maintenir, c'est une femme qui a trouvé ça en plus, hein. C'est ça qui est marrant. Maintenir la quantité d'excitation aussi basse que possible serait un principe de nirvana. Et c'est un terme qui en fait a été trouvé, que Freud adopte, qui a été trouvé par une femme, qui s'appelle Barbara Lee, et que Freud adopte. Comme dans beaucoup d'autres cas d'ailleurs. Et là, je me permets de vous demander si vous connaissez beaucoup de disciplines scientifiques de l'époque qui vont emprunter à des femmes des concepts quels qu'ils soient, à part la psychanalyse, en 1920. Ben, vous m'en trouvez, vous me le direz. Hein. C'est pour ça, quand on dit le machisme de Freud et tout, je doute beaucoup. Hein. Il a beaucoup emprunté à des femmes qui étaient avec lui et tous les gens qui l'ont su, toutes les psychanalystes qui lui ont succédé étaient quand même des femmes, mais pas des hommes, les grands. Hein. Mélanie Klein, c'était la plus grande psychanalyste après Freud, bien évidemment. Ensuite, il y a eu Lacan, c'est quand même une femme, c'est pas un homme. Et de même que Sabine Spielrein, Marie Bonaparte qui a créé la psychanalyse en France, c'est une femme, c'est pas un homme. Hein. Sa fille, qui lui a succédé dans ses enfants, c'est une femme, Anna, c'est pas un garçon. Donc là, il faut poser des petites questions quand même, hein, avant de lancer des affirmations.
Le questionnement est passionnant.
Oui, oui.
Il n'y a pas toujours les tenants et aboutissants.
Oui, oui, non, mais c'est vrai que c'est un problème très intéressant. Mais on va voir parce que, là, comment il envisage tout ça, parce que tout ça se goupille d'une façon complexe. Alors, il y a ce principe de nirvana qui, lui, ressortait la pulsion de mort. Parce que quand on atteint le nirvana, on est mort, en fait. Hein. Il n'y a plus de désir, en fait, c'est ça. Hein. Là, tout est stable. Ben, quand tout est stable, c'est fini, c'est la mort. Hein. Il n'y a plus de désir, il n'y a plus de tension, il n'y a plus rien du tout. Alors là, on est revenu au point de départ, avant la naissance, et puis c'est fini, hein. Il n'y a plus rien. Alors, mais il suppose que dans tout être vivant, il y a cette espèce de besoin qui l'entraîne à mourir, en quelque sorte, pour revenir à un état originel, antérieur, etc. etc. Alors, il y aurait chez l'être vivant, c'est énormément compliqué là, je résume, il y aurait chez l'être vivant donc une modification qui l'a transformé, si vous voulez, cette pulsion de mort, en principe de plaisir sous l'effet de la libido. Ça, c'est sa deuxième conception, c'est grâce à la libido qu'il y a en fait liaison et une espèce de façon de réduire la pulsion de mort, c'est justement de la lier libidinalement. Et par la libido, qui est la pulsion de vie en fait, qui participe de cette façon à la régulation des processus vitaux. Là, il faut que vous lisiez parce que c'est compliqué. Alors, le principe de plaisir est gardien de la vie, de même que c'est l'intrication des pulsions de vie et de mort qui permet de neutraliser la pulsion de mort. Et de façon qui est toujours provisoire et précaire, qui est toujours remise en cause constamment. Et quand il y a désintrication pulsionnelle, ce qui se remarque dans des cas extrêmement graves, des cas vraiment psychiatriques, là, extrêmement graves, il se produit des catastrophes, bien évidemment, mais jamais, quasiment jamais, on ne peut déceler une pulsion de mort à l'état pur, parce que sinon on la prouverait, ce ne serait pas une espèce d'hypothèse qu'il a lancée. Attendez, voilà, la pulsion de mort c'est là, on la remarque là, on l'observe comme ça, bon, il n'y aurait pas une hypothèse qui fonderait tout l'édifice, mais toutes les sciences ont des hypothèses qui fondent tout l'édifice conceptuel, hein, c'est inévitable. Alors, à partir de tout ça, Freud distingue trois sortes de masochisme. Alors, je suis conscient que c'est très compliqué de ça, en fait. Au bout d'un moment, au début, c'est simple. Alors, quand on avance, au fur et à mesure, tout s'empile et ça devient de plus en plus compliqué. Alors, il y aurait trois sortes de masochisme. Ce serait le masochisme érogène. Il appelle ça comme ça, le masochisme érogène. Je l'expliquerai un peu après. Comme mode de l'excitation sexuelle. Bon. Deuxièmement, le masochisme féminin comme expression de l'être de la femme. Regardez, j'ai pas le temps de regarder les traductions allemandes, mais il faut se méfier des textes des traductions françaises en général. Bon, ça c'est dans un premier temps qui dit ça. Et le masochisme moral, donc c'est érogène comme mode, j'ai copié, hein, érogène comme mode de l'excitation sexuelle, féminin comme expression de l'être de la femme, moral comme norme du comportement dans l'existence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, hein? Évidemment, pas simple, hein. Donc érogène, féminin et moral. Moral comme norme de comportement dans l'existence. Ah, il y a une double surprise là qui attend le lecteur. Il ne s'attend pas du tout à trouver ça. Alors, premièrement, il estime que le masochisme féminin est le plus accessible à l'observation et le moins énigmatique. Alors là, évidemment, on peut ouvrir des grands yeux, parce que Freud a toujours dit que la femme était énigmatique, mystérieuse, diablante, que c'était un continent noir, je ne sais pas quoi, toutes ces phrases de Freud où il dit que tout est énigmatique chez la femme, bon, etc. Et mystérieux. Et donc la féminité est énigmatique. Deuxième source d'étonnement, pour aborder le masochisme féminin, Freud se limite à l'homme en raison du matériel dont il dispose. Il dit que lui, par hasard, il a un matériel masculin beaucoup plus important sur ce cas précis, parce qu'il a beaucoup de femmes en analyse, et donc il ne va donner que des cas d'hommes pour le masochisme féminin. Et là, on commence à se poser des questions. Alors Freud se réfère là au fantasme, dit-il, de personnes masochistes, hommes, hein, fréquemment impuissantes. Donc en fait, c'est des néo-féminins, mais c'est des hommes. C'est des hommes qui sont impuissants. Et il dit qu'ils ont des fantasmes masturbatoires, il y a des fantasmes, ils se masturbent en même temps, parce qu'ils sont évidemment impuissants avec des femmes, mais sinon ils se masturbent, qui sont ces fantasmes, c'est d'être bâillonnés, souillés, par des excréments, évidemment, ou par de la boue, etc., fouettés, humiliés, battus, maltraités, obligés à obéir, enfin, toute la panoplie sadomaso que vous trouvez sur Internet, j'imagine, très facilement. Alors, avec de rares cas, dit-il, de mutilation. C'est extrêmement rare qu'on en arrive jusqu'à la mutilation. C'est en général, des jeux, hein, des scénarios pervers, où il y a des scènes qui se répètent toujours à l'identique en règle générale, bon, vous avez plein de films là-dessus, vous avez des prostituées ou pas, bon, qui fouettent, qui dominent, bon, etc. Et les messieurs sont très contents. Alors, ces jeux sont interprétés par Freud comme l'accomplissement d'un désir, le désir d'être traité comme un enfant méchant. Ce qui n'est pas idiot, faut penser. Et dans ces fantasmes, la personne est placée dans une position caractéristique de la féminité, et donc, enfin, qui est considérée comme caractéristique de la féminité, mais quand même. Et il signifie, dit-il, être castré, subir le coït ou accoucher. Bon, les choses sont claires avec Freud. Alors, c'est pour cette raison que, dit-il, j'ai nommé masochisme féminin, cette forme de masochisme dont tant d'éléments pourtant renvoie à la vie infantile. Donc il a dû hésiter. Et s'il l'a appelé masochisme féminin, c'est un peu par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'imagine, où il dit que l'enfant est un pervers polymorphe et que chez certaines femmes qui n'ont pas été éduquées, etc., elles sont restées des enfants, en quelque sorte, sur le plan psychique, et que donc elles auraient toujours une orientation pervers polymorphe. Je pense que c'est pour ça, parce que sinon c'est complètement incompréhensible tout ça. Alors il dit, alors là je vous l'explique, mais lui il dit, cette superposition en strates de l'infantile et du féminin trouvera plus tard une explication simple. Mais il ne la donne pas, il l'a dû oublier en cours de route. Et donc il ne la donne pas, mais c'est là que je viens de vous la donner, parce que moi je n'en vois pas d'autre, si vous voulez que celle-là. Je ne vois pas très bien ce que ça peut être. Alors il dit, bon, alors il y a celle-là, et puis il y en a une autre, hein, c'est qu'on peut penser qu'il y a une équivalence entre la femme et l'enfant castré dans les fantasmes infantiles, qui donc subsiste à l'âge adulte, parce que dans les fantasmes ou les théories sexuelles infantiles, la femme n'existe pas, et donc c'est ça que, enfin, c'est une des raisons pour lesquelles Lacan, c'est pas que la femme n'existe pas, parce qu'il y a des femmes, évidemment que chacune est différente de l'autre, et que ce concept de la femme est absurde, l'essence de la femme, etc., bon, ça tient pas debout pour la psychanalyse, mais en même temps, donc se creuser la cervelle pour chercher, pour Freud, ça sert à rien, c'est un faux problème, on le verra à la fin. Mais là, il dit, je pense aussi qu'une des raisons, c'est que dans les conceptions, aussi bien des garçons que des filles, en fait, au départ, hein, parce qu'après, ça diverge, il y a l'idée que la femme, il y a un sexe, que c'est lui qui se voit évidemment le plus, hein, qui est le sexe masculin, et que l'autre, bah, il ne se voit pas parce qu'on l'a coupé, c'est tout. Donc, c'est le début des théories infantiles, puis après, ça évolue, évidemment. Mais ça reste, puisque c'est refoulé, etc., ça reste quand même comme support, comme substrat assez résistant chez la plupart des gens. Alors derrière ces fantasmes, il y a évidemment une idée de punition qui est en relation, dit-il, toujours avec la masturbation infantile qui est régulièrement oubliée par l'adulte. Parce que l'adulte, en général, c'est bien homme que femme, n'a pas le souvenir de la masturbation infantile, mais il est quasiment sûr qu'on la lui interdite à un moment ou à un autre. Une éducation assez libérale et tout, bon, à un moment quand on dit arrête, bon, etc. Mais ça, les enfants ne s'en rappellent pas, et souvent les parents non plus d'ailleurs. Tout le monde oublie, c'est très pratique. Mais si vous voulez, la punition, surtout à l'époque, mais même aujourd'hui, j'ai entendu encore ça, si tu continues, il va tomber, on va le couper, enfin des trucs comme ça, ce genre de phrases, on l'entend quand même. Malgré tout, encore aujourd'hui, moins sûrement, mais à l'époque, alors c'est sûr que ça se disait beaucoup, hein. surtout que chez les nourrices, enfin les femmes qui s'occupaient des enfants, qui n'étaient pas forcément. Il faut voir aussi que toute la bourgeoisie était élevée par des femmes du peuple, en fait. Les nourrices, souvent les gouvernantes un peu moins, ça dépend des familles. Et souvent, c'était pas les mères qui s'occupaient vraiment des enfants et des bonnes familles. Donc, tout y a tout un tas d'idioties qu'on leur disait, hein, bien évidemment. Alors, derrière ces fantasmes, donc il y a une évidemment l'idée, et en plus chez les mères, il y a d'autres choses, c'est celle qui était bien élevée, il y avait l'Occident, il y avait toute cette religion catholique, etc., et toute une autre série d'idioties. Bon. Alors, l'idée d'une punition.
Je suis pas sûr que ce soit les paysans qui disent plus de bêtises.
Non, c'est bien ce que j'étais. C'est pour ça que je viens de me corriger à l'instant en me disant, en plus, il y a toute l'éducation qui était donnée aux femmes, justement, au niveau répressif pour. Oui. Ça dépend. Bon, puis aujourd'hui, on ne sait plus très bien, parce que quand même, on est loin de tout ça. Ça a tellement changé tellement rapidement qu'on a du mal à se remettre dans. Il faut reprendre les textes s'il y en a, et puis en ce sens, ça n'a pas laissé de traces. Donc, on se rappelle, les gens de mon âge, déjà, ce que disaient mes parents. Mais bon, moi, déjà, ma mère était infirmière, donc j'étais plus déjà dans ce trip, hein, dans ce genre de problème. Ça avait déjà beaucoup évolué. Mais on peut penser qu'on a des traces, quand même, dans les romans, dans beaucoup de choses. On voit quand même, on peut dire, quand même, il y a des choses qui évoluent aujourd'hui, en disant. Donc, il y aurait l'idée d'une punition en relation avec la masturbation infantile, qui est régulièrement oubliée par l'adulte. Il y aurait un crime indéterminé en général qui a été commis, c'est ce qui reste hein, au niveau inconscient, et ce qui met ce masochisme en relation avec le masochisme moral et érogène, c'est-à-dire lié au plaisir sexuel. Freud dit que le masochisme féminin, on commence à voir qu'il s'agit d'une dénomination qui n'est pas tout à fait arbitraire, mais qui est quand même assez complexe, repose entièrement sur le plaisir de la douleur. Alors, ce masochisme érogène proviendrait d'une excitation sexuelle, dit-il, qui se produit comme effet marginal dans toute une série de processus internes dès lors que l'intensité de ces processus a dépassé certaines limites quantitatives. Et l'idée qu'une douleur, quand elle devient excessive, finit par procurer du plaisir. Alors, c'est pas, probablement même que scientifiquement, c'est pas tout à fait faux. Hein. Il n'y a qu'à voir, parce que, bon, c'est aujourd'hui, on ne savait pas, moi j'essaie de me représenter les choses un peu concrètement, si vous voulez. Donc, par exemple, les sportifs qui font du sport, où ils s'épuisent à faire des choses épouvantables, serait-ce que courir ou des choses dans ce goût-là, au bout d'un moment, pour calmer la douleur, le corps, comme chacun sait, sécrète des endorphines, qui procurent du plaisir. Déjà au niveau, à ce simple niveau, hein, quand on court, c'est pas très agréable, hein. Moi qui suis obligé de courir, je peux vous dire que pour ma santé, c'est horrible. À un moment, ça me casse vraiment les pieds. Puis à un moment, c'est pénible. Et puis il y a un moment où, ça change. Et à force, si on s'accroche, on ne s'arrête pas avant, ça procure vraiment du plaisir parce qu'il y a la morphine est basée là-dessus. Hein. C'est-à-dire, l'usage de la morphine provient du fait que le corps sécrète naturellement une espèce de morphine naturelle qui s'appelle l'endorphine, hein, les endorphines. Et donc, c'est remplacé par la morphine qui calme la douleur. Mais ça, c'est sécrété naturellement par le corps. Donc, il y a un plaisir, quand même, qui est procuré par quelque chose qui, au départ, est douloureux. Et, c'est dans beaucoup de cas, quand même, peut-être pas si bête que ça. Hein. Bon. Alors, il s'agit donc d'un mécanisme physiologique pour lui, au départ, il appelle ça une coexcitation libidinale lors de la tension de la douleur et du déplaisir qui s'épuisera par la suite. Et donc, ça serait en relation avec le masochisme féminin. Alors, elle trouverait, dit-il, alors c'est une phrase assez incompréhensible, elle trouverait dans les diverses constitutions sexuelles un développement diversement important, fournissant en tout cas le fondement physiologique sur lequel est ensuite édifié dans le psychisme le masochisme érogène. Il y aurait donc des phénomènes biologiques, cette espèce de transformation à partir d'un certain moment de la douleur en plaisir, à un moment où la douleur serait assez importante, qui serait à la base physiologiquement de tout le masochisme érogène, c'est-à-dire dans le plaisir, qui fait que quand on éprouvera du plaisir ensuite, on va de la douleur, ça pourra se transformer chez certaines personnes en plaisir. Allez, cette explication n'est cependant pas pas suffisante. Non, c'est lui qui le dit, car elle n'explique pas le sadisme qui est lié au masochisme de façon intime. Les deux étant liés, il faut trouver une explication qui vaille pour les deux. Alors, comme on l'a vu, la libido a pour tâche de rendre inoffensive la pulsion destructrice en la dérivant vers l'extérieur. Ça, c'est bien connu. Hein. C'est évident que le sadisme n'est pas secondaire par rapport au masochisme, cette deuxième théorie de Freud. C'est l'inverse, ça qui est surprenant. C'est le masochisme qui est premier. Et ça, j'avais pas vu. Moi, c'est en faisant cette conférence qu'on s'est aperçu. Et en fait, c'est le masochisme qui est premier et le sadisme est secondaire. Pour ne pas périr, en quelque sorte, pour ne pas être détruit, l'individu va détourner vers l'extérieur une force qui l'auto-détruit. Et c'est ça qui va être la source du sadisme, qui en fait est secondaire par rapport au masochisme. Alors que dans un premier temps, on se dit, il y a une pulsion d'agression qui est le sadisme, et il y a un masochisme qui est secondaire par rapport au sadisme, mais non, lui dit c'est l'inverse. Il y a une pulsion d'auto-destruction chez tout être vivant qui va l'entraîner à s'auto-détruire. Puisque dans ce principe de nirvana, pour aboutir à une tension très très basse, qui est la mort. Et pour échapper à cette mort, justement, l'individu va être obligé de projeter l'agressivité à l'extérieur. Quand il ne peut pas, à ce moment-là, là il y aura un masochisme qui sera secondaire. Si les pulsions agressives sont inacceptables pour le surmoi, si vous voulez, elles sont censurées, à ce moment-là, l'individu va retourner l'agressivité contre lui, et ça va être un masochisme secondaire, cas du suicide, bien évidemment, où la personne veut assassiner quelqu'un, elle se tue elle-même. Bon. Et ça c'est vrai. Alors là, par contre, chez les mélancoliques, ça se passe vraiment comme ça. Ils veulent tuer quelqu'un, et c'est pas eux qui veulent tuer, hein. C'est la mère en général, enfin un être qui est détesté dans la mélancolie, où les 80% des gens se suicident autrefois avant les médicaments dans la mélancolie. Et donc la vraie mélancolie, hein, pas les états dépressifs. Les états dépressifs, il y en a dans tout le monde en a, toutes les pathologies, mais chez les vrais mélancoliques, qui ne sont pas en même temps maniaques, qui ne sont pas maniaco-dépressifs, dans la mélancolie, il y a un désir d'autodestruction qui est omniprésent. Ils pensent qu'à ça, se suicider de toutes les façons possibles, ils ont des idées noires en permanence, et on s'aperçoit, mais ça c'est vrai, que la personne qu'ils veulent tuer, c'est pas eux en fait, c'est quelqu'un qu'ils ont intériorisé, qu'ils ont d'une façon très archaïque, qu'ils ont, en quelque sorte, c'est au niveau oral que ça se passe, qu'ils ont introjecté oralement. Ils ont en quelque sorte dévoré psychiquement, si vous voulez, et cette personne qui est en eux, ils veulent la détruire. C'est cette personne, et ça, je peux vous assurer que c'est vrai. Parce que j'en ai fait l'expérience avec quelqu'un, et j'ai bien vu, la personne allait se constituer prisonnier au commissariat de police, vous voulez assassiner quelqu'un. Évidemment, la police, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un type qui vient se constituer prisonnier parce qu'il se sent. Toi, t'es pas complètement fou, en plus, hein. Mais dans des états de crise horribles, de dépression terrible, elle se constitue prisonnier plusieurs fois de suite. Alors, on l'a hospitalisé, parce qu'on dit un jour, il a suicidé quand même. Parce qu'il voulait, mais là, le côté agressif apparaissait, avec des idées noires de suicide et en même temps des idées de crime qui concernaient la mère, enfin des gens de la famille, hein, bien évidemment. Et ça, c'est vraiment, vraiment indiscutable. Enfin, moi, je trouve que c'est indiscutable, cette histoire. Bon, alors. Donc, la libido a pour tâche de rendre inoffensive la pulsion destructrice en la dérivant vers l'extérieur dans le sadisme, pour pas que la personne s'autodétruise. Mais là, il part même au niveau cellulaire, hein, au niveau vraiment très, très, très primitif et biologique, ça part de là. Alors, il nommerait cette pulsion de destruction ou bien pulsion d'emprise. Il s'agit d'avoir une emprise sur quelqu'un, si vous voulez, le tenir à sa disposition, c'est la pulsion d'emprise. Hein. Il appelle ça comme ça. Ou volonté de puissance. Il s'agit de dominer, de contrôler, de tenir à portée de la main. C'est des gens qui ont besoin d'un objet qui contrôle en permanence, hein, qu'il y ait quelqu'un autour d'eux qui ne puisse pas leur échapper, et qui domine, qui le maîtrise entièrement, sans avoir un rapport vraiment ouvertement sadique. Mais au fond, il y a ça. Alors, une partie de cette pulsion est placée directement au service de la fonction sexuelle, où elle a un rôle important dans la sexualité normale, pour Freud. L'agressivité est constitué, et pour Freud, normal dans les relations sexuelles. C'est donc le sadisme proprement dit. Une autre partie, qui n'arrive pas à se dériver, être liée à la libido, ne participe pas à ce déplacement vers l'extérieur, et demeure dans l'organisme, une espèce de pulsion masochiste primaire, en quelque sorte, et elle se trouve liée libidinalement à l'aide de la coexcitation sexuelle dont on a parlé. C'est en elle que nous devons reconnaître, dit-il, le masochisme originaire érogène. C'est pour ça que dire, bah oui, c'est les femmes qui sont originairement masochistes, mais c'est pas si simple. Donc, le masochisme primaire, ce masochisme primaire qui proviendrait donc quelque chose qui suppose exister, qui n'a pas été transformé en sadisme, est donc une sorte de mécanisme de défense en réalité. Hein, parce que c'est lié, au lieu d'être détruit, ça se transforme en masochisme, donc on éprouve du plaisir et l'individu n'est pas détruit dans cette histoire. Donc, c'est positif pour Freud. Il y a une liaison libidinale qui empêche la destruction. sexualité, devenue composante de la libido, a pour objet l'être propre de l'individu. Il est un témoin, dit-il, et un vestige de cette phase de la formation où s'accomplit l'alliage de l'éros et de thanatos, c'est-à-dire quelque chose de très primitif, si important pour la vie. Le sadisme projeté à l'extérieur peut de nouveau être introjecté, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et on aurait alors un masochisme dit secondaire qui se surajouterait au premier. Deux masochismes, un masochisme primaire, un masochisme secondaire. Masochisme primaire, cette espèce de liaison libidinale pour empêcher la destruction de l'être, de l'individu par ses pulsions autodestructrices, et un masochisme secondaire quand le sadisme ne peut pas être exprimé en quelque sorte, et que l'individu se l'interdit et éprouve du masochisme, qu'il soit sur le plan sexuel, soit sur le plan moral. C'est évident. Alors, le sadisme, Freud rapporte à ce masochisme érogène l'angoisse de dévoration qui correspond à la phase orale, le désir d'être battu à la phase anale, l'angoisse de castration au stade phallique et de l'organisation génitale définitive, dit-il, dérive naturellement des situations caractéristiques de la féminité, subir le coït et accoucher. Cependant, donc, quand il fait le point en 1933, on se dit, bon, voilà, on est tranquille, on a compris, etc. En 1933, Freud refait le point sur ce que c'est que la féminité et le féminin. Et il ne le fait pas à l'aide du masochisme de la passivité du tout. Puisque vous voyez bien qu'il a donné des cas d'hommes. Donc ce masochisme féminin se retrouve pour lui surtout chez les hommes. D'ailleurs, c'est pas si faux que ça. Hein. Évident que c'est beaucoup. Bon, ça va venir après, tout ça, dans le détail. Cette conférence, la 33e, donc, a été souvent, à mon avis, très mal comprise. Hein. Freud part de la soi-disant énigme posée par la féminité, et il attend de la définir de diverses façons, qui tout échoue. Alors, c'est très frappant ce texte. Hein. Ça, c'est clair, tout échoue. Il donne tout un tas d'essais de définition de la féminité, et ça marche jamais. Alors, il dit, la différence entre masculin et féminin est évidente. Quand vous voyez un homme et une femme, en général, vous voyez bien qui est homme et qui est femme. C'est évident. Bon. Pour tout le monde, pratiquement, sauf des cas. Alors, évidemment, c'est toujours sortir un cas où c'est pas évident, il y a des travestis, ou je sais pas quoi, des hermaphrodites, bon, tout ce que vous voulez. C'est quand même pas si fréquent que ça, c'est quand même marginal, c'est pas exagéré. En général, on voit un homme, une femme, on sait qui est homme, qui est femme. Et pourtant, dit-il, comme pour beaucoup de concepts importants, si on essaye de définir conceptuellement, on n'y arrive pas. C'est très étonnant, vous remarquez, il y a plus tard des concepts, c'est comme ça. C'est impossible à vraiment bien cerner. On dit, sur le plan biologique, le spermatozoïde est masculin et l'ovule féminin. Mais pour le reste, tout est question de proportion, dit Freud. Alors il dit, le masculin et le féminin se trouvent chez l'homme et la femme en raison inverse. On est toujours plus l'un que l'autre, dit Freud, suivant des proportions éminemment variables. La trace de l'autre sexe se trouvant toujours chez l'autre, chez chacun. Oh bon, si vous voulez, sur le plan biologique, c'est évident que les seins chez l'homme, bon, à quoi ça sert, hein. Même trace des seins chez la femme. Donc, chez la femme, le clitoris, c'est forcément une trace du sexe masculin. Bon, à une époque où peut-être il n'y avait qu'un sexe, enfin, on n'en sait rien. C'est évident qu'il y a ne serait-ce que sur le plan strictement biologique, et chez tous les hommes, chez toutes les femmes, il y a toujours des traits qui sont plus masculins, féminins, bon, à ce niveau-là. Alors, conclusion, ce qui fait la masculinité ou la féminité est un caractère inconnu que l'anatomie ne peut saisir, dit Freud. Déjà, il retire toutes les solutions biologiques, etc., anatomiques, tout ça, claque, il les met au panier, ça ne marche pas. Sur le plan psychique, on a parlé, et la psychanalyse le fait, de bisexualité psychique. Freud reprend la théorie de la bisexualité psychique. Mais il dit que c'est une sorte de métaphore. Il faut vraiment lire Freud dans le détail. Il dit que c'est une métaphore. Les comportements sont qualifiés de masculins ou de féminins par pure convention. On ne peut donner aucun nouveau contenu de cette façon. En général, quand on pense masculin, on pense actif, et féminin, passif. C'est vrai pour le spermatozoïde et l'ovule. Pour la pénétration du mâle, on ne fait, dit Freud, que réduire, pour la psychologie, le caractère du masculin au facteur de l'agression, donc au sadisme. Et donc la femme est masochiste. Bon. Rien de ce qui est considéré conventionnellement comme féminin ne l'est vraiment. Exemple des animaux, dit Freud, il raisonne vraiment en biologiste là, exemple des animaux où les femelles sont plus agressives que les mâles, où les mâles couvent, etc. Parce qu'évidemment, dès que vous avez un contre-exemple, tout est foutu. Hein. Tout le monde sait bien que chez les insectes, les araignées sont plus grosses que les mâles, les dévorent, etc. Ou la montre religieuse, dans tout ce genre d'exemple. Ou que chez les oiseaux, vous avez les mâles qui ont des plumes de toutes les couleurs, etc. Et la femelle, pendant ce temps-là, elle couve, elle a des plumes toutes moches, enfin moches, du genre à laquelle les canards, hein, ils ont un plumage dit cryptique, qui est gris, qui est marron, qui se fond dans la végétation pour pas qu'on les tue pendant qu'elles sont en train de couver. On manque de chance, il y a des sortes d'oiseaux où c'est l'inverse, où c'est le mâle qui couve et qui a les plumes cryptiques, et où la femelle, elle a des plumes de toutes les couleurs, et elle va de nid en nid, elle est polygame, enfin bon, des trucs complètement inversés. Alors évidemment, si on se fonde sur les comportements soi-disant observés dans la nature, on se plante complètement, puisque ça ne marche pas, rien ne marche, si vous voulez, à ce niveau-là, puisqu'il y a toujours des exceptions. Là, on voit dans de multiples cas, les lionnes qui chassent, c'est pas chez les félins, c'est les femmes qui chassent, enfin les femmes, les femelles qui chassent, c'est pas les mâles, bon, etc., etc. Il y a un nombre d'exemples vraiment infinis qu'on pourrait donner où ça ne fonctionne absolument pas. Bon. Alors, il dit, tout ça, c'est conventionnel. Alors, il dit, même dans la vie sexuelle humaine, activité et masculinité ne coïncident pas. La mère est active. Et quand vous réfléchissez, c'est vrai. La mère est hyper active avec ses enfants. Et tout le temps en train de faire quelque chose. C'est, l'enfant est complètement passif. La mère est toujours active. Donc, si la femme était si passive que ça, si ça la caractérisait, on s'en serait aperçu quand même. Il faut réfléchir un petit peu. C'est ça qu'il veut dire, quand même. Et il dit, et beaucoup d'hommes sont passifs sur le plan sexuel ou en société. Et il ne parle pas simplement de l'homosexualité. Attention, hein. Il dit, beaucoup d'hommes sont passifs. C'est la femme qui prend l'initiative. C'est la femme qui est active même sexuellement. D'ailleurs, exemple, et en société également, beaucoup d'hommes sont passifs, sont soumis à des chefs, à des je sais pas quoi, et ils éprouvent un grand plaisir à être soumis, hein, c'est fréquent. Et il y a les hommes toutous que la femme domine en permanence sur le plan moral, bon, ça existe très 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 fréquemment. Bon, alors, si on en déduit que les hommes comme les femmes sont bisexuels au sens psychique du terme, c'est que l'on fait coïncider actif avec masculin et passif avec féminin, ce qui n'avance à rien, dit Freud. Donc tout s'écroule en fait, hein. C'est tout ce qu'il a dit jusqu'à présent. C'est un affreux en réalité, il démine absolument tous les préjugés, tout ce qui est dit. Comment ? Non, c'est quelqu'un qui parle. Donc si vous voulez, on peut caractériser, dit-il également, la féminité, il y a une autre façon de le dire. Là, évidemment, ça serait passivité égale masculinité, égale féminité, masculinité, égale agressivité, activité, etc. C'est-à-dire, on peut raisonner un peu différemment. On peut dire, on peut caractériser également la féminité par la préférence donnée à des buts passifs. Ce qui n'est pas la même chose que le fait d'être passif. Hein. Et, parce qu'une très grande activité peut être nécessaire pour obtenir des buts passifs. Une femme peut être très séductrice, donc très active, en fait, hein, pour aboutir à être ensuite sexuellement passive, par exemple. Mais si la femme a cette préférence, dit-il, en général, et la petite phrase qu'il faut lire, évidemment, il ne faut pas sous-estimer l'influence des organisations sociales qui acculent également la femme à des situations passives. Alors là, il appelle ça le rôle du dressage. Il appelle ça du dressage, carrément. Freud, hein. Il ne veut pas que le dos de la cuillère, quand même. Il appelle ça le rôle du dressage social. Qui fait qu'on dresse les femmes à avoir une certaine attitude en société. On ne peut pas être plus clair. Moi, les féministes, je ne les comprends pas. C'est qu'elles n'ont pas lu. Hein. Vraiment, elles n'ont pas lu. C'est écrit. Ce n'est pas moi qui l'invente, ce cycle-là. Hein. Bon. Alors, il dit, la répression de l'agressivité, constitutionnellement prescrite et socialement imposée à la femme, favorise le développement de fortes notions masochistes. Donc, ces notions masochistes proviennent de l'éducation, pour Freud. Et ce masochisme qui est soi-disant féminin, est féminin parce que c'est une façon conventionnelle d'appeler les choses. Alors, je reprends, la répression de l'agressivité constitutionnellement prescrite et socialement imposée à la femme favorise le développement de fortes émotions masochistes qui parviennent à lier érotiquement les tendances destructrices tournées vers le dedans. Évidemment, comme elle ne peut pas exprimer son agressivité, elle est bien obligée de lier l'agressivité ou alors elle explose, elle se détruit. Donc, à ce moment-là, elle va avoir un comportement masochiste qui va lui permettre de lier. Mais c'est, vous voyez bien que c'est socialement imposé. Et ça ne peut pas faire autrement. Alors, moi, je peux vous donner des exemples où ce n'est pas du tout le cas. En temps de guerre en particulier, on m'a raconté des histoires où la femme, bon, pas du tout, quand elle peut vraiment exprimer son agressivité et lier sexuellement différemment que par le masochisme, bah, elle le fait. Hein, vous connaissez un cas de viol d'hommes par des femmes, vous vous demandez comment ils font, bah, comme les hommes, c'est-à-dire avec des armes, parce que sinon on peut pas. Et j'ai essayé, on peut pas. Et donc, il y a des cas, type, il avait été prisonnier, c'était dans l'Est, c'était des femmes soldats russes qui avaient occupé la Hongrie, et j'avais un peintre hongrois, il me racontait, donc elle avait pris des hommes, et puis une mitraillette, alors je sais pas comment ils faisaient les types. Et elle disait, bon voilà, si tu veux manger, un œuf, tu tires un coup, un œuf, etc. Bon. Et elle donnait à manger, au cas où, avec mitraillette et tout. Donc là, on a des buts qui sont peut-être, là c'est bien l'exemple, si vous voulez, de buts passifs, mais qui sont imposés de façon hyperactive. On ne peut pas faire mieux, quand même. Et surtout des femmes, non c'est pas des... Alors, le masochisme, bon alors, si vous rencontrez, dit-il, alors, on va en déduire, c'est donc authentiquement féminin. Mais, si vous rencontrez, comme c'est souvent le cas, le masochisme chez les hommes, que vous reste-t-il d'autre à dire sinon que ces hommes montrent des traits féminins? Ça devient inextricable, on s'en sort pas. Alors, après avoir montré, si vous voulez, l'impossibilité de trouver une essence de la femme, Freud passe à un deuxième temps. Je ne le résumerai pas, parce que disons, c'est pas la peine de chercher l'essence de la femme, c'est ce qu'est la femme. La psychanalyse ne veut pas décrire ce qu'est la femme, mais comment sexuelle. Sinon, c'est comment on devient homme, c'est comment on devient femme. Pour la société, évidemment, c'est encore conventionnel en fait. Et Freud retrace l'évolution de la femme, qui est souvent identique à celle de l'homme. Et c'est pour ça que Freud ne veut pas qu'on parle d'autre chose que du complexe d'Oedipe. Il ne veut pas appeler le complexe d'Oedipe le complexe des lèvres. Parce qu'il pense qu'on doit mettre le même mot, de même qu'il en pour l'homme que pour la femme. Parce qu'il pense que l'évolution est identique au départ. C'est qu'après, parce qu'à un certain moment, l'évolution est exactement la même. Alors, il dit que les phases précoces du développement de la libido sont identiques chez l'homme et la femme, avec la même agressivité chez les filles que chez les garçons, dans la phase sadique. Dans la phase phallique, la différence des sexes s'estompe, très différent dans les deux cas, forcément. Ça commence à être un peu plus loin. Il y a l'angoisse de castration, la fille n'a pas d'angoisse de castration, parce que sinon elle serait complètement folle. Et donc pour Freud, à ce moment-là, il y a l'envie de pénis qui était. Que dans certains cas, il y a orientation vers le père, avec abandon de la mère comme objet d'amour. Geneviève Morel en avait parlé de tout ça, hein, quand elle fait sa conférence. Avec abandon de la mère comme responsable du manque de pénis. Et avec abandon de la masturbation clitoridienne. Le désir de pénis se transforme en désir d'enfant, mais d'autres issues sont possibles, dit Freud. Elles sont tout à fait possibles. Il y a la névrose et le complexe de masculinité. Sur la psychologie d'un cas d'homosexualité féminine qui date de 1920 et dont Geneviève Morel vous avez parlé. La féminité, on se rend compte que ce sont les questions qui sont mal posées. Non, merci. Ce sont les questions qui sont mal posées, stériles et inadéquates, dit Freud. Dans cet article, on retrouve l'idée que les distinctions entre masculin et féminin sont plus conventionnelles que scientifiquement justifiées. Et elle en avait parlé d'ailleurs, elle n'a pas parlé de tout, mais par exemple, il le fait quand il présente la jeune homosexuelle, etc., et d'autres traits, et il dit aussi qu'elle adopte une position typiquement masculine dans l'amour, qui est d'aimer et non pas d'être aimé, typiquement masculine. Face à l'objet d'amour auquel on se soumet, c'est l'exemple, si vous voulez, de l'amour courtois, où l'homme va se jeter aux pieds de la femme, et va la vénérer, etc., etc., il va avoir une attitude, en fait, passive vis-à-vis de la femme, et c'est ce qu'on appelle la masculinité chez une femme, si vous voulez. Évidemment, c'est C'est un peu dérangeant hein, quand on lit vraiment bien. Hein. Et c'est assez paradoxal, mais je ne suis pas sûr que c'est tout à fait faux. Alors, et donc, ce qui n'est pas dit dans la conférence, ça s'est dit ailleurs, c'est que, donc il le dit dans cet article, il faut compléter les textes les uns par les autres, dans ce texte sur les jeunes homosexuels, il dit que le degré d'hermaphrodisme psychique est dans une large mesure indépendant du degré d'hermaphrodisme physique. Il a tout dissocié, alors là, il fait tout éclater. Le problème de l'homosexualité, dit-il, renvoie au féminin. Et il démolit à peu près tous les préjugés de l'époque, absolument tous. Et à mon avis, qui ont encore cours aujourd'hui, aussi bien chez les scientifiques que dans les mouvements gays, lesbiennes, même les mouvements progressistes et tout. Il dit, la grossière erreur, hein, pas rien de dire la grossière erreur, de penser que l'homosexuel a un corps d'homme et un cerveau de femme, est ridiculisé par Freud. C'est complètement idiot. Outre, dit-il, que l'on ne sait pas ce que c'est qu'un cerveau de femme, pour commencer. Donc ça, c'est quand même pris très au sérieux par tous les gens qui opèrent et qui vous disent, ils croient ce que disent, en fait, Geneviève Morel l'a bien montré dans son livre sur les ambiguïtés sexuelles, un livre assez difficile, mais où c'est le cas, si vous voulez, de beaucoup de psychanalystes qui se trouvent confrontés à un problème énorme. Il y a quelqu'un qui arrive et qui lui dit, bon voilà, j'ai un corps d'homme, mais en fait, je suis une femme, psychiquement. Alors, mettez mon corps en conformité avec ce que je suis essentiellement, réellement, je veux une opération. Il y en a 500 000 par an dans le monde, à peu près, hein. Et en France aussi, il y en a. Donc, Geneviève Morel dit, on croit au pied de la lettre ce que disent ces gens. En fait, c'est des convictions psychotiques. Quelqu'un qui dit ça, c'est complètement fou, hein, honnêtement, la plupart du temps. Et, mais pour le genre, aujourd'hui, ça fait très progressiste de dire, voilà, oui, c'est bien, pourquoi pas, gna gna. Bon, en réalité, quand on leur fait suivre une psychothérapie, très souvent, ils abandonnent cette conception, qui est quand même très souvent une conception délirante, parce qu'il y a une croyance, une conviction qu'on appelle la conviction délirante chez les psychotiques. Alors ça fait partie des convictions délirantes. Il se trouve qu'un grand psychiatre américain, qui s'appelait Stoller, elle en parle dans son livre, c'est ça, il y croyait vraiment, parce que lui, il était convaincu par ce que disaient les patients qui venaient le voir. Donc on en aboutit à cette croyance, qui est quand même étrange, qu'il peut y avoir des êtres qui sont femmes, et qui ont l'essence femme. Donc on remet cette histoire d'essence sur le plateau, sur le devant de la scène, avec un corps qui ne correspond pas à leur essence, à leur réelle essence, etc. Ce qui est quand même un peu bizarre, pour moi aussi. Alors, il distingue dans tout être humain trois séries de caractères qui sont complètement dissociés pour lui. Il y a des caractères sexuels somatiques, qu'il appelle l'hermaphrodisme physique. Donc c'est qu'on est plus ou moins femme. Et il dit qu'il y a une gradation infinie sur le plan physique. C'est vrai qu'il y a des hommes qui n'ont pas beaucoup de barbe, une voix aiguë, les femmes qui ont de la barbe, ça peut arriver aussi, ou des poils noirs, je sais pas, n'importe quoi, qui est considéré comme plus masculin, etc., etc., c'est pas pour ça que, pas parce qu'un homme, par exemple, il le sait partout, il va dire, c'est pas parce qu'un homme a une apparence féminine qu'il est homosexuel, c'est vrai en plus, c'est pas vrai, même que c'est pas parce qu'un homme a une apparence extrêmement dite masculine qu'il va être forcément hétérosexuel. Non, faux, maintenant tout le monde le sait. C'est vraiment des. Avant, tout est étalé, on sait tout maintenant. Donc, entre les films, etc., on sait bien que les gros balèzes et tout, ils sont souvent hyper passifs, pas parce qu'ils ont des sexes énormes, qu'ils vont pas avoir qu'une idée, c'est d'être passif, etc. Ça n'a absolument aucun rapport. Il a absolument raison. Mais à l'époque, c'était pas évident de dire un truc comme ça. Attention, hein. Il y a quand même une idée, encore des médecins qui vont sortir toutes ces théories hormonales complètement folle dingue sur le fait que c'est un truc hormonal, que si on a des hormones, on a des traits plus spécifiquement féminins, alors on va avoir une position féminine, c'est complètement faux, c'est non faux, sexuellement c'est faux. Alors il dit, deuxièmement, donc il y a ces caractères sexuels somatiques, deuxièmement, les caractères sexuels psychiques, donc c'est cette fameuse position masculin-féminin actif-passif, qui ne correspond pas du tout, hein, évidemment, parce que la femme peut être active, l'homme passif, tout est possible, tout est envisageable. Et troisièmement, le mode du soi d'objet, homme, femme, animal, ce que vous voulez. Et les trois sont absolument séparés.